Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Raison gardée. Bonjour Charles.
Bonjour Sylvie.
Aujourd'hui une émission qui va tourner autour d'un personnage, d'une figure dont nous avons parlé dans une précédente émission qui est le général Bijard. Alors je rappelle en quelques mots pourquoi c'est une figure dont il est question à la fois localement et nationalement depuis quelques temps. Dans sa ville natale de Toul, il est question d'installer une statue à la gloire du général Bijard. Quelqu'un qui s'est fait connaître notamment au moment des guerres d'indépendance et tristement célèbre en Algérie pour les exactions et les tortures commises par ses troupes. Et pour resituer un peu aujourd'hui justement ce général, je vous propose une émission de Bugeaud à Bijard pour retracer à grands traits l'histoire douloureuse des relations de la France et de l'Algérie. Une histoire douloureuse parce que c'est une histoire de colonisation. On aurait pu aussi appeler cette émission de l'éventail à la statue parce que, en fait, la France, si on remonte au 19e siècle, au moment des guerres napoléoniennes, la France avait contracté une dette auprès des figures du pouvoir algérien et ne comptait pas la rembourser totalement. Et à la demande du représentant du pouvoir, le dey d'Alger, le consul de France a été fortement invité à régler enfin la dette. Et il se raconte à ce moment-là que le dey aurait, alors c'est ce qu'on appelle le problème de l'éventail, il aurait souffleté le consul de son éventail. Bon, il semblerait plutôt qu'il lui ait donné des petits coups réprobateurs, sans doute comme on admoneste un peu un enfant, et c'est un prétexte en fait qui a permis de lancer justement des menaces, puis il y a une montée en puissance comme ça, des tensions entre la France et l'Algérie, un blocus, etc. Et cela a vraiment déclenché toute une politique de colonisation de l'Algérie par la France. Cette colonisation, elle, d'après les historiens, elle aurait aussi rendu service à Charles X, qui avait besoin de redorer un peu son blason et de montrer que la France était une grande puissance. Et il a donc lancé en 1830 l'expédition d'Alger pour donner l'image d'un pouvoir fort. Quand bien même donc, l'opposition en France était opposée à cette expédition, une expédition qui ne va pas suffire puisque Charles X est renversé. Mais le nouveau régime incarné par Louis-Philippe considère que le retrait de la France d'Algérie serait une perte de prestige pour le nouveau régime et il décide donc de maintenir cette politique de colonisation qui est en cours. Et notamment en plaidant à travers la presse de l'époque pour la nécessité de défendre une position de la France en Méditerranée qui devrait nécessairement passer par la domination d'Alger et de toutes les terres environnantes. Donc le gouvernement de Louis-Philippe se maintient. Là où le gouvernement français avait déjà campé ses positions, sans pour autant lancer vraiment une action de conquête, parce que la situation était déjà assez compliquée en France et en Europe. Mais à partir de 1832, Abdelkader, qui est un jeune chef de 24 ans, s'impose à des tribus et il se présente comme le chef de la résistance à l'occupation française. Et évidemment, on entre dans une sorte d'escalade et les Français se heurtent à des premières résistances à l'occupation, soit par des tribus locales qui n'acceptent pas la présence française ou par des forces menées militairement de manière plus localisée. Bien sûr, les Algériens ont aussi des rapports avec le pouvoir à Constantinople, hein, et le combat est mené aussi avec l'aide et l'appui de forces diverses. Toujours est-il que en 1839, Abdelkader déclare la guerre à la France. Après la violation de certains traités, et la France envoie davantage de troupes que les historiens chiffrent à un peu plus de 100 000 hommes. Entre alors en scène un personnage qui va marquer l'histoire de la colonisation de façon tragique, qui s'appelle Bugeaud. Alors Bugeaud, il était déjà connu en France pour avoir réprimé des insurrections en 1834, et dans l'histoire de France, on en reparle aussi parfois, en 1848, il a réprimé l'insurrection en février à 1848 à Paris. Mais il a été envoyé dès 1836 en Algérie, et en 1840, il en est le gouverneur général. Et il n'est pas le premier à le faire, mais il fait partie de ceux qui invitent les hommes à pratiquer la politique de la terre brûlée et une technique qu'on appelle les enfumades. Donc il n'est pas le seul à avoir pratiqué, elle avait été aussi pratiquée par un lieutenant-colonel qui s'appelait Pélissier et un autre dont j'ai oublié le grade qui s'appelait Cavaignac. C'est-à-dire que quand une tribu nomade, par exemple, ou une partie de la population d'un village attaqué par les troupes françaises se réfugie dans des grottes, eh bien l'idée c'est de mettre un immense feu à l'entrée de la grotte pour asphyxier les personnes qui s'y sont réfugiées. Donc ces enfumades sont documentées, il y en a deux ou trois tristement célèbres en juin 1844 et les enfumades du Dara le 18 juin 1845 par exemple. Celle-là est imputable au lieutenant-colonel Pélissier qui a fait mourir ainsi quasiment toute une tribu qui s'était réfugiée dans une grotte. Il me paraît important de rappeler ces événements pour bien réexpliquer peut-être ce que signifie aussi cette colonisation qui ne se fait jamais de façon pacifique. Et déjà à l'époque, le vocabulaire qu'on utilise en France pour parler de ces exactions, c'est le terme de pacification, de maintien de l'ordre, de la volonté d'apaiser des situations. Voilà, on n'emploie jamais le terme de guerre, bien sûr. C'est sous la Troisième République, en réalité, que la colonisation va vraiment se développer. Entre 1880 et 1900, les historiens disent qu'on multiplie par 7 à peu près le nombre de colons, et en particulier dans les villes. Donc on passerait de 100 000 à 700 000 colons vers la fin du 19e siècle. Il faut rappeler que même le grand Victor Hugo voit les terres algériennes comme des terres qui sont promises aux Français qui pourraient y aller pour trouver des terres, pour s'installer, pour sortir de la misère. Alphonse de Lamartine aussi écrit des textes pour la colonisation, Jules Ferry bien sûr. Et il y a un écrivain français qui est envoyé en Algérie, c'est Maupassant, qui produit des articles qui paraissent dans un journal au début des années 1880. Et Maupassant a un regard à la fois nourri de certains préjugés, il écrit des choses qui nous heurtent aujourd'hui sur les Algériens, mais il a aussi un regard quand même très féroce sur ce qu'est la France là-bas en Algérie. Et il écrit notamment dans un article qui s'appelle « Alger », en évoquant le quartier européen d'Alger, il dit « Dès les premiers pas, on est saisi, gêné, par la sensation de progrès mal appliqué à ce pays, de la civilisation brutale, gauche, peu adaptée aux mœurs, au ciel et aux gens. C'est nous qui avons l'air de barbares, au milieu de ces barbares, bruts il est vrai, mais qui sont chez eux, et à qui les siècles ont appris des coutumes dont nous semblons n'avoir pas encore compris le sens. Napoléon III a dit un mot sage, peut-être soufflé par un ministre. Ce qu'il faut à l'Algérie, ce ne sont pas des conquérants, mais des initiateurs. Or, nous sommes restés des conquérants brutaux, maladroits, infatués de nos idées toutes faites. Nos mœurs imposées, nos maisons parisiennes, nos usages, choquent sur ce sol comme des fautes grossières d'art, de sagesse et de compréhension. Tout ce que nous faisons semble un contresens, un défi à ce pays, non pas tant à ses habitants premiers qu'à la terre elle-même. Donc on entend bien ici l'ambivalence de son propos, c'est-à-dire à la fois cette idée que le colon français incarnerait quand même une certaine forme de civilisation, mais on perçoit aussi chez lui toute la brutalité qu'il évoque, hein, en disant que nous avons l'air de barbares, et puis le manque de respect à une culture bien présente que lui voit. Il observe aussi dans d'autres lignes la misère, la très très grande misère des populations, et cette misère l'indigne. Je fais un petit saut dans les années 1920, où une grave crise économique frappe le pays, et la colère gronde dans cette Algérie qualifiée de française, et qui souffre d'une famine assez importante. Outre cette famine, la colère aussi se fonde sur la différence de statut qui continue à séparer les citoyens, qui officiellement sont des citoyens français, hein, dans l'Empire français, mais qui en fait connaissent des statuts très différents. Le code de l'indigénat a été mis en place au milieu du 19e siècle et il réduit les droits des Algériens, notamment en ce qui concerne la liberté de circulation, la liberté de la presse, mais aussi l'accès aux emplois publics et à l'enseignement. On trouve des revendications très fortement portées, notamment par un groupe qui s'appelle les Jeunes Algériens, qui sont donc des nationalistes et qui sont présentés dans la presse française de l'époque comme étant des fauteurs de troubles. La presse française se fait l'écho de propos tenus par des généraux de l'armée qui sont chargés de préjugés racistes. On entend très clairement cette idée que la France est du côté de la civilisation et l'Algérie ne serait pas, enfin les Algériens ne seraient pas un peuple civilisé. Le seul journal qui apparaît comme très clairement anticolonialiste et qui relaye le combat des jeunes Algériens, c'est l'Humanité, qui dans les années 1920, et notamment dans un article en 1924, porte les revendications des leaders de ce mouvement nationaliste algérien. À Paris, une nouvelle organisation fondée par des travailleurs immigrés algériens naît en mars 1926, elle s'appelle l'Étoile Nord-Africaine, elle est dirigée par Messali Hadj. L'émir Khaled est le président d'honneur et l'objectif de l'Étoile Nord-Africaine, c'est bien de lutter pour l'indépendance totale de l'Algérie, mais aussi du Maroc et de la Tunisie. Cette organisation était initialement affiliée au Parti communiste français qui lui donne la parole au congrès anticolonial qu'il avait organisé à Bruxelles en février 1927. Messali Hadj prononce un discours dans lequel il dit par exemple « L'impérialisme français s'est installé en Algérie par la force armée, la menace et les promesses hypocrites. Des populations qui vivaient dans un état de prospérité qu'elles n'ont pas aujourd'hui, l'impérialisme en a fait des affamés, des esclaves, et cette expropriation s'est faite comme partout, sous le signe de la civilisation. » Et c'est toujours le prétexte qui est utilisé de porter une civilisation à un peuple dont on prétend qu'il ne l'aurait pas. Dans l'Humanité, en 1927, on peut lire encore, donc toujours pour porter les revendications de cette organisation algérienne pour l'indépendance, « Nous avons entrepris de développer chez le peuple algérien l'idée qu'il n'aura les libertés et la meilleure existence auxquelles il a droit qu'en luttant pour les obtenir et en s'organisant pour cette lutte. » Donc dans les années 1920, des groupes existent qui revendiquent l'autodétermination et l'indépendance de l'Algérie et du peuple algérien. En 1929, le gouvernement français décide d'interdire l'étoile nord-africaine, qui se reconstitue en Algérie quand même en 1936. Le groupe est à nouveau dissous en 1937 pour créer un parti politique clairement indépendantiste qui s'appelle le Parti du peuple algérien. Il s'implante à Alger, il y devient de plus en plus populaire et il est interdit en 1939. Dans la presse, si on regarde par exemple un journal qui était très populaire et qui était pour le moins conservateur, qui est le Petit Journal, hein, on a tous en tête au moins une du Petit Journal dans son supplément illustré, c'est celle qui présente Dreyfus aux Invalides, dégradé aux Invalides. Sur les dessins du supplément illustré du Petit Journal, on voyait très souvent, et c'est donc cette image-là que les Français vont avoir en tête, par exemple des attaques de tribus nomades contre des colons, où j'ai en tête une image qui montre une institutrice défendant ses petits élèves, qui sont bien sûr des petits de colons, défendus contre l'attaque de quelques Algériens. C'est une image qui laisse penser qu'il y a de la violence du côté des Algériens et la civilisation du côté des Français, donc c'est tout à fait dans la propagande officielle. Et puis d'autres images montrent, puisque la France a développé le chemin de fer, en particulier dans la deuxième moitié du 19e siècle, eh bien on montre aussi qu'on installe du chemin de fer en Algérie comme étant la preuve que la France apporte de la technologie et de la modernité dans un pays qui ne l'aurait pas. Donc voilà le genre d'images, hein, qui sont véhiculées et qui contribuent à développer des préjugés racistes et à justifier les exactions de l'armée française et du gouvernement français sur les terres algériennes. Après la Seconde Guerre mondiale, des mouvements nationalistes se développent et bien sûr est créé le Front de Libération Nationale qui va porter le combat pour l'indépendance algérienne. C'est une histoire qui est aujourd'hui un peu mieux connue, mais peut-être pas encore suffisamment. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans les écoles, on parlait des événements d'Algérie, ou on parlait des moments où il a fallu maintenir l'ordre ou rétablir l'ordre. Il est parfois long de mettre les mots exacts sur ce qui s'est passé, et il convient de parler de guerre, d'une guerre d'indépendance qui en fait est le résultat de dizaines et de dizaines d'années de colonisation et de violence et d'humiliation, de mauvais traitements et aussi d'une humiliation légale, hein, puisque si on pense au code de l'indigénat, c'est vraiment une humiliation légalement imposée aux personnes colonisée. Cette guerre d'Algérie, elle est justement, et je le disais en introduction, liée à des généraux connus, Ossarès, Massu et Bijar. Ce sont des noms qui résonnent tous à nos oreilles. Et c'est une guerre pendant laquelle a été très largement pratiquée la torture. Alors, il y a eu en particulier, en 1957, la bataille d'Alger, c'est-à-dire pour réprimer une révolte qui s'organisait, qui est une révolte politique. Hein, l'armée française décide d'envoyer des troupes qui ont un peu carte blanche pour rétablir l'ordre. Sur cette partie-là de l'histoire, je ne reprends pas tout le détail, je vous invite à les retrouver sur YouTube ou sur une radio amie, Radio Déclic, l'intervention de deux historiens qui sont venus à Toul, Fabrice Rissé-Pouty et Alain Roussio, qui ont développé dans le détail ce qui s'est passé lors de cette bataille d'Alger. Et je voudrais porter l'attention sur justement ce général Bijar, qui est, contrairement à Massu par exemple, celui qui a toujours refusé de dire qu'il avait pratiqué la torture, en tout cas qu'il a toujours refusé de dire qu'il avait pratiqué la torture lui-même. Alors sur l'existence de la torture, il faudra attendre les années 2000 pour que le grand public redécouvre ce qui était déjà dénoncé dans la presse au moment même de cette guerre d'Algérie, c'est-à-dire la torture massivement appliquée à toute personne s'opposant au pouvoir français. C'est un extrait d'un journal de 2000.
Près de 40 ans après la fin de la guerre entre la France et l'Algérie, des témoignages de personnes torturées par l'armée française et des déclarations de hauts gradés français, dont le général Massu, reconnaissant les faits, viennent nourrir ce que l'on appelle le besoin de devoir de mémoire. Au long des 8 années de conflit, 1954-1962, les militaires français ont eu à faire face aux combattants du FLN. Parmi ceux-ci, Agnès Varamian et Philippe Jasselin viennent de rencontrer à Alger Louisette Iguilariz et Abdelkader Aman. Arrêtés, ils ont été torturés, ils témoignent.
Pendant la guerre d'indépendance, Abdelkader Aman était membre des commandos urbains du FLN. Recherché par l'armée française, capturé en 61, il passe 18 jours ici, à la Villa Susini, siège du 3e régiment étranger parachutiste. Très vite, on l'amène dans ses caves. Au fond de celle-ci, une baignoire pleine d'eau souillée.
On était attachés, les mains derrière, et on nous basculait la tête dans la baignoire. On ne pouvait pas respirer, on était obligé de boire ça. Et c'était vraiment la torture la plus féroce.
Ici, c'était la salle de la Gégène, engin électrique branché sur l'oreille, le sexe. Pour couvrir les cris, les militaires chantaient.
C'était une chanson où il était question de « À toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie, toi qui me renverse, toi qui me bouleverse. » Et c'était les deux dernières phrases qu'il répétait encore. « Toi qui me renverse, toi qui me bouleverse, mon petit grain de fantaisie. »
La Villa Susini, El Billard, la Corniche, autant de lieux de torture. Alger, 40 ans plus tard, Louisette Iguilariz se souvient. Elle a 20 ans et sert d'agent de liaison au FLN quand elle est arrêtée. Blessée, plâtrée, pendant 2 mois allongée nue sur un lit, elle croupit dans ses immondices.
Pas normal. Quand on voit le purin et les excréments, on essaye de les éviter. Moi, j'étais dedans. On s'attendait à tout. De toute façon, on était préparé à tout. On était préparé aux insultes, aux injures, aux gifles, aux coups de poing, aux coups de pied. Mais là où ils ont essayé de forcer la dose, c'est là où j'ai espéré me suicider. Avec quels moyens ? Je n'avais pas les moyens.
Louisette, de son nom de guerre Lila, reconnaît que tous les militaires français n'étaient pas des tortionnaires. Un nommé Graziani agissait sur ordre.
Graziani, lui, était pervers. Il était tortionnaire. Mais je voyais que l'ordre venait de Bijard et de Massu.
Louisette Iguilariz ne doit son salut qu'à un médecin militaire français, révolté par la torture et qui l'a fait évacuer vers une prison. Cet homme, Louisette l'a cherché, en vain. En fait, son sauveur est mort il y a 3 ans. Il repose dans le sud de la France, face à elle, de l'autre côté de la Méditerranée.
Les témoignages sont vraiment glaçants, hein, entendre cet homme qui répète cette chanson qu'il entendait pendant qu'il était torturé. C'est assez poignant et terrifiant. Et Louisette est une des... Je crois que c'est la seule femme qui ait vraiment témoigné sur les tortures qu'elle a subies au moment de cette guerre. Son témoignage aujourd'hui figure dans des manuels scolaires, j'ai envie de dire enfin. Les programmes étant désormais bien plus conformes à ce à quoi nous aspirons tous, c'est-à-dire une histoire qu'on regarde en face. Et une histoire qui s'écrive pour que chaque peuple ait une connaissance exacte de ce qui s'est passé. La commission, il y a une commission qui s'est construite, qui s'appelle la commission Stora, qui s'est réunie 2 ou 3 fois depuis l'année dernière, et qui est une commission qui réunit des historiens français et algériens pour justement réussir à rassembler tous ces documents et à permettre une écriture juste, objective, de l'histoire. Alors dans ce témoignage de Louisette, vous avez entendu qu'elle nomme Bijard. Dans un article du Monde aussi, elle racontait une séance de torture à laquelle a assisté le général Bijard. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est qu'on a l'air de redécouvrir parfois tout ce qui s'est passé, toute cette torture. Je le disais tout à l'heure, la presse de l'époque évoque déjà la torture, toute une presse la dénonce, mais on peut même retrouver dans les archives un entretien d'Anne Sinclair avec le général Bijard, nous sommes en 1980, elle l'interroge sur la torture, et Bijard, vous allez l'entendre, est très très loin de dire que la torture, il ne voit pas très bien de quoi on parle. Bien au contraire, il s'en vante.
Alors la bataille d'Alger, il faut en parler parce que bon, vous dites, vous, que c'était surtout une opération de police, ça a été aussi présenté d'une autre manière, et on a beaucoup parlé de la torture à propos de la bataille d'Alger. Alors, donc, quand on parle des paras en Algérie, il faut parler de la torture. Alors, je pense que vous avez d'ailleurs votre réponse prête, mais vous avez écrit à M. Bourgès-Monoury, qui était alors ministre de la Défense et qui vous félicitait, vous lui avez dit, si je ne me trompe pas, « Monsieur le ministre, vous pensez bien qu'on n'arrive pas à de tels résultats avec des méthodes d'enfants de cœur. » Et puis vous avez même parlé, je crois, à un moment donné, des moyens bien connus qui nous répugnent.
Oui.
Alors qu'est-ce que ça voulait dire tout ça?
Ça voulait dire, c'est une question qu'on a posée plusieurs fois, à chaque fois que je viens à la télévision, on me la pose.
Ah oui, ça,
alors en ce qui me concerne personnellement, d'abord ceux qui me connaissent savent que je suis incapable de tuer un poulet. Beaucoup l'ont écrit, Jules Roy l'a écrit, ou Joseph Kessel, le Bijard se bat sans armes, parce que j'avoue autre chose, je commandais, j'ai même pas d'armes, si ça va mal, on peut toujours prendre l'arme d'un blessé, donc si vous voulez, je suis contre.
C'est moi. Moins vous mais, que le corps que vous représentez.
Voilà, c'est sûr. Alors là, en ce qui concerne la bataille d'Alger, les choses sont simples. Le général Massu, qui commande la division parachutiste, reçoit l'ordre de détruire cette rébellion qui est à Alger, qui pose des bombes, où vous arrivez dans un cinéma, il y a une bombe de posée, vous voyez des jeunes filles, ou dans un enseigne, les jeunes filles qui ont les jambes arrachées, les jeunes gens tués, etc. Et ça se produit à un endroit, puis ça se produit à l'autre, puis etc. Donc si vous laissez faire, c'est fini, il n'y a plus d'Alger, il n'y a plus qu'à s'en aller, parce que ça vivait sous la terreur, ça vivait sous les bombes. Alors Massu reçoit une mission, il nous réunit, il dit, il faut détruire cette rébellion, donc la détruire. Celui qui pose la bombe, ça ne veut rien dire. Si vous le ramassez, quel est ton chef, qui fait les bombes, où se trouve l'usine, où vous voulez fabriquer, etc. Il faut remonter les filières et très vite, parce que ça va très vite. Donc, il faut employer des méthodes qui sont que je suis absolument contre, mais eux aussi, pourquoi posent-ils des bombes? Pourquoi massacrent-ils une jeunesse qui n'a rien à voir dans tout ça? Donc, si vous voulez, imaginez que demain, je vous pose la question, imaginez que demain, dans une grande ville, une capitale, Paris, ou prenons une autre capitale, prenez, si vous voulez, en Italie, n'importe où, Rome ou ailleurs, imaginez que des bombes se posent tous les jours, qu'il y ait 100 personnes de tuées, 200 de blessés, que dire à la population? Trouvez ces gens-là à tout prix, quoi. Donc, vous voyez, c'est la violence enchaîne la violence, c'est ça le problème.
Donc, vous dites, au fond, la torture, ça existait, mais on pouvait pas y échapper.
Ça existait, mais moi, je sais que je disais toujours à mes hommes, d'abord, je vous défendrai, je veux que ce soit fait le plus proprement possible. Donc, quand il y a eu une deuxième bataille d'Alger, je sais que le patron de la DEST à l'époque, je ne me rappelle plus de son nom, avait dit ramener surtout le régiment Bijard parce qu'il travaille proprement. Donc, vous voyez, et je m'entends par proprement faire les choses le plus humainement possible.
Qu'est-ce que ça veut dire, c'est proprement, très dur. C'est ça?
Ben oui, c'est
dans
sûr, c'est sûr.
Dans la guerre, qu'est-ce que c'est?
Enfin, je vous dis, la guerre ne se passe en bavure. Et là, je vous dis d'abord, le militaire exécute les ordres du gouvernement parce que les hommes politiques sont venus nous voir, des hauts responsables qui savaient exactement ce qui se passait et qui ont dit, bon, ben, faut y aller. Il faut détruire cette rébellion, autrement on n'en sortira pas. Quoi.
En somme, vous voulez dire que le militaire,
alors,
c'est le bras,
mais que
l'ordre vient du politique et que c'est les politiques qui devraient porter la responsabilité aussi.
Non, mais voilà, c'est sûr.
Et oui, la façon de parler de la torture par Bijard est assez édifiante. Alors, il cherche des euphémismes, il botte un peu en touche, mais en réalité, tout est dit. Et ce qu'il dit aussi, c'est la violence appelle la violence. C'est pour ça qu'il me paraît toujours important de resituer des événements dans une histoire longue et de rappeler que la France est allée coloniser l'Algérie, et que ce qui s'est passé au moment de la bataille d'Alger est aussi un élément dans une chaîne d'événements bien antérieure, et que les Algériens étaient tout à fait en droit de se battre pour leur indépendance. Plusieurs caricatures qu'on trouve maintenant dans les journaux pour dénoncer l'idée d'une installation d'une statue à la gloire de Bijard évoquent les crevettes Bijard. Alors c'est juste un petit élément que je voudrais rappeler. Le témoignage de l'ancien secrétaire général de la préfecture d'Alger, Paul Tedjène, dit à propos de Bijard, il arrêtait les bonhommes, il leur mettait les pieds dans une cuvette, il remplissait de ciment, et puis c'est tout, les pieds étaient pris. On mettait le gars dans un hélicoptère, on les lâchait en pleine mer, la mer les renvoyait, ce que les gens d'Alger appelaient les crevettes Bijard. Des crevettes, c'est vous dire l'atmosphère dans laquelle on vivait. Donc voilà, cet individu que la ville de Toul voudrait héroïser dans l'espace public. Je vous invite à aller retrouver la pétition qui est sur change.org. Vous tapez pas de statut pour le général Bijard. Je vous invite à écouter les émissions diffusées en podcast sur Radio Déclic, à retrouver sur YouTube en tapant conférence Bijar Toul, la conférence des historiens qui a eu lieu fin mars. Et à vous aussi, contribuer à lutter contre l'installation d'une statue à la gloire de cet homme qui incarne ce que la France a pu faire de pire au moment de la colonisation. À très bientôt sur Raison Gardée.